Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, et François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, abordent le rôle de la supply chain dans l'économie du pays. Ils se sont retrouvés lors du gala de la supply chain sur un terrain commun, la défense de la logistique et du supply chain management.
Installez-vous là, merci d'être avec nous ce soir à tous les deux. Prenez un crayon bien entendu et un stylo et un micro, voilà. La logistique aujourd'hui, vous pouvez prendre le verre, oui c'est important, l'histoire politique que vous représentez. Alors François-Michel Lambert, que vous connaissez aussi si vous êtes des fidèles de Supply Chain Village, puisqu'il a sa chronique Le Monde à Lambert. On a l'occasion donc de pouvoir regarder et écouter les dialogues et les conversations qu'il a avec ses invités. 58 000 salariés dans la logistique et la supply chain, 5 000 recrutements par an, dont les deux tiers en CDI. Ça, c'est pour les chiffres macroéconomiques et bien entendu des problématiques qui s'offrent à vous deux et à l'ensemble des représentants de politique locale. On parlera du Brexit. Évidemment, on parlera aussi des élections européennes parce que ça a des enjeux malgré tout sur cette activité qui est la vôtre ce soir. Mais Xavier Bertrand, je parlais des emplois que ça représente pour une région comme celle des Hauts-de-France, évidemment, qui est un carrefour naturel au niveau logistique européen. C'est un hub. C'est colossal ce que ça représente chez vous.
Bah, c'est énorme. Avec juste un petit rappel, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Et donc le rôle des politiques, c'est d'essayer de créer l'écosystème le plus favorable pour que les entrepreneurs puissent investir. Je peux vous livrer une anecdote. Je le racontais tout à l'heure en aparté. Quand j'étais tout jeune, donc ça remonte à loin, j'avais un maire, que je ne citerai pas, qui me disait, tu sais, Thio, comme on dit chez nous, il ne faut jamais investir dans la logistique. Ça bouffe du terrain et ça ne crée pas d'emploi.
Un visionnaire.
Je me suis gardé de suivre son conseil parce que ça montre bien qu'il y a encore beaucoup d'élus qui ne connaissent pas la logistique, qui ne connaissent pas la supply chain, qui n'ont pas vu que c'était à la croisée des chemins entre les services et l'industrie et que c'était sacrément créateur d'emplois. Dans la région, si je prends transport et logistique, je suis à 157 000 emplois. Et ce n'est pas une paille. Et pour un gars comme moi qui est mort de faim en termes d'emploi, non seulement j'en suis content, non seulement je continue à créer l'écosystème le plus favorable possible de façon à ce qu'on fasse le choix, pardonnez-moi, des Hauts-de-France, et l'ambition qui est la nôtre, parce qu'on a, nous, l'ouverture sur l'Europe, l'ouverture sur la région la plus riche d'Europe, l'Île-de-France, une façade maritime, et c'est pour ça que je me bats aussi sur le canal Seine-Nord-Europe, c'est parce que je voudrais que pour ceux qui veulent investir en Europe, ils se disent, le hub logistique, ce sont les Hauts-de-France. Mais derrière, ce que je peux me permettre de dire aussi, c'est que la logistique, ceux qui travaillent sur toutes les plateformes, c'est des emplois non délocalisables. Voilà, et ça, j'y tiens également, donc je sais, pardonnez-moi, ce que je dois en termes d'emploi à la logistique, c'est pour ça que je l'assume, un militant de la logistique.
Et avec cette difficulté peut-être quand même, quand on doit gérer la politique locale pour faire émerger cet écosystème, d'avoir des acteurs qui sont des très très gros acteurs de la logistique dans le Nord, et puis des toutes petites structures, c'est très éclaté comme secteur.
Ah, moi je marche sur deux jambes, hein. Ouais. Il y a des très gros acteurs bien évidemment, français, internationaux, et il y a aussi des acteurs de proximité. Ouais. Mais si je peux me permettre juste un point. Ce que je disais tout à l'heure pour cet élu qui n'avait pas le bon regard sur la logistique, ouvrez vos portes au maximum aux élus pour leur montrer quand même qu'en termes de ressources fiscales, vous êtes bien souvent les premiers contributeurs de collectivités locales. Et montrez-leur également les emplois qu'il y a chez vous. Et à ceux qui pensaient encore qu'il y avait deux ou trois métiers dans la logistique, grosso modo, quelqu'un qui ouvrait la porte et puis l'autre qui était sur son Fenwick, j'en parlais tout à l'heure avec des acteurs de plateforme dans la région, c'est entre 20 et 30 métiers différents, avec vraiment de la création de valeur et des emplois qui n'ont rien à voir avec les idées reçues. Et donc au maximum, s'ils ne l'ont pas fait, invitez les élus pour qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a comme emploi dans le monde et dans le secteur de la logistique.
Alors, François-Michel Lambert, vous avez voulu le micro vert parce que effectivement l'histoire politique qui est la vôtre, c'est plutôt l'environnement. Et malgré ça, la commission Duron, vous avez... c'est pas forcément incompatible, c'est pas un en même temps, mais presque. Malgré ça, vous avez expliqué devant la commission Duron qu'il valait mieux développer la route plutôt que le fer. Et ça, pour un écolo, ça m'a surpris. Expliquez-nous.
Merci tout d'abord pour l'invitation. Si vous m'aviez demandé avec qui j'aurais souhaité être associé, c'était avec Xavier Bertrand, parce que je connais très bien ce que fait la région Hauts-de-France et je souhaitais le saluer. Nous avons été députés ensemble et que ce soit clair, la dynamique des Hauts-de-France, j'aimerais tant la la porter aussi dans ma région sud, mais ça sera bientôt. Je connais René Muselier qui en a l'ambition. Pour revenir sur votre question, la question, d'abord, je suis issu du monde de la logistique. Je reprécise que j'ai travaillé 6 ans au centre de recherche en transport et logistique de l'université d'Aix-Marseille, au CRETLOG, travaillé sur des grands enjeux, et que, en finale, comme vous, je regarde des indicateurs, des chiffres, des trajectoires, des réalités, que la performance, c'est pas que de la performance technologique, la supply chain, c'est pas une réflexion purement technologique, c'est vraiment une réflexion organisationnelle. Comment on peut être plus performant, comment on peut être plus efficient, comment les cycles tournent. Alors, je reviens à votre question, vous me demandez pourquoi je soutiens
l'idée, la route que le faire.
L'idée de la route, parce que les marges de productivité sont sur la route. On a une performance qui peut augmenter de plusieurs points, dizaines de points en quelques années, indépendamment même de la technologie moteur. C'est avec les autres technologies de l'information, la capacité à mieux remplir les camions, la capacité à rapprocher dans ce qu'on appelle le platooning, la capacité à être efficient dans les trajectoires des différents opérateurs, etc., etc. Quand on regarde, puisque quand on parle de camion, on regarde tout de suite le fer. Moi, je suis très clair, le fer avec une rotation de 40 ans sur les matériels techniques, un système assez fermé, il répond à certains enjeux, mais par rapport à l'enjeu macro, aujourd'hui, nous devons, et je le regrette parce que ça ne va pas assez vite, nous devons, nous, les politiques, donner les moyens à une performance accrue sur la question de la route, comment on optimise, comment on crée de l'efficience dans l'usage des moyens routiers, parce que c'est là où nous gagnerons et on répondra, parce que nous sommes tous les deux politiques, Xavier et moi, nous répondrons à l'attente des citoyens qui estiment qu'ils voient trop de camions, qu'ils voient trop de flux.
Mais vous me
disiez si nous
aussi...
étions sur une performance au niveau des camions, mécaniquement, nous aurions très certainement, sans aucun doute, moins de camions à volume équivalent que si nous tentions un basculement sur le rail, un basculement qui est plus idéologique que réel.
François-Michel Lambert, bah c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire et j'allais vous poser la question aussi, Xavier Bertrand, à tous les deux. Il y a quelque part un état d'esprit, une mentalité, vous l'avez évoqué tous les deux, à changer chez les politiques aussi, très, très en haut, parce que c'est vrai qu'on a parfois le sentiment dans les ministères, au transport ou à l'écologie, qu'on ne comprend pas bien la logistique. Et puis également auprès des maires, des communes, des villes, lorsqu'ils doivent renouveler leur centre-ville, qui ne veulent pas voir de camions arriver, qui sont anti-camions. Et donc là, c'est difficile à convaincre ça aussi. François-Michel Lambert et puis
alors,
Xavier Bertrand.
Tout d'abord, très très haut, connaissant bien le président Emmanuel Macron, je pense qu'il l'a bien intégré. Après, entre Emmanuel Macron et l'opérationnel, il y a des questions, et je n'irai pas plus loin, à se poser. Donc,
oui, je ne vois pas où, se passe
le mot. Qu'il est dit.
Le président de la République a intégré, pour avoir travaillé avec lui lorsqu'il était ministre de l'économie, parfaitement ce que c'était l'efficience, puisqu'il m'avait nommé président de la Commission nationale logistique, que j'avais remis en mars 2016 une stratégie qui s'appelle France Logistique 2025, qu'il a évidemment bien intégré, qu'il y avait de la performance dans la question logistique, des gains de productivité et ne pas se tromper de sens. Là où il faut aller, c'est dans plus d'informations, aller à faire en sorte que les entreprises montent en puissance de maîtrise de la data, de l'information, parce que la logistique, comme je l'ai appris au CRETLOG, c'est quand même le pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'informations. Si vos flux d'informations sont pauvres, votre efficience, elle ne sera pas au niveau. Donc faisons en sorte que toutes les entreprises françaises montent en compétences, montent en capacité de data, montent en capacité de transmission et nous aurons de l'efficience. Maintenant, la question est comment on articule ça au niveau politique, comment on fait en sorte que les élus l'intègrent. Moi, parfois, je pense qu'il y a des symboles qui sont importants. Et comme on est dans une soirée relativement courte, je resterai sur un symbole qui est je prône la création d'une fonction ministérielle, gouvernementale, autour de la logistique.
Délégué interministériel.
Délégué à minima, un secrétaire d'État à la logistique, à la supply chain, à l'économie circulaire, puisque c'est un sujet que je porte largement, puisque, et ce sont les mêmes logiques, comment on crée en économie circulaire de l'efficience dans l'usage des ressources, et bien par une efficience des systèmes organisationnels que nous mettons en place avec les échanges que nous pouvons mettre avec la maîtrise des data. Mais pour tout ceci, si vous n'avez pas une personne qui est visible médiatiquement et qui est au cœur du réacteur gouvernemental pour le rappeler sans cesse à tous, eh bien il y a un impensé politique, et je le dis tranquillement, il y a aujourd'hui un impensé politique de ce qu'est la logistique en France. Et quand on regarde aux autres pays, quand on regarde le score de la Banque mondiale pour la France, eh bien, on peut peut-être se poser des questions sur la première des initiatives serait d'avoir une fonction gouvernementale autour de la logistique.
Xavier Bertrand, par rapport à ce que dit...
Est-ce que j'ai le droit d'être d'accord avec lui ?
Oui, ça peut arriver, d'accord. On ne le dira pas, on ne le répétera pas.
Non, vous pouvez le dire, je suis sorti de tout ça, donc ça va dans bon sens, je le reconnais.
Simplement,
si on est dans le cadre des propositions, parce que je pense, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, pour moi, dans la région, la logistique, c'est très bien, je pense qu'on peut faire encore davantage, parce qu'en plus, la logistique, elle est de nature aussi à nous aider en termes d'aménagement du territoire. Ce n'est pas dans le cœur des métropoles qu'on a forcément de la logistique. De toute façon, dans le cœur des métropoles, ils n'en veulent pas. Oui. Mais par contre, en termes d'aménagement du territoire, la logistique, et j'ai notamment un ami, je ne vais pas le citer ici, mais qui pourrait aussi en porter témoignage, il s'installe dans des endroits où il y a des taux de chômage très importants. Mm-hmm. Mon boulot, c'est aussi qu'on l'aide à trouver le personnel nécessaire. Mm-hmm. Mais il y a aussi d'autres aspects. Moi je demande pas d'argent à l'État. Mais j'aimerais prendre la main sur toutes les formalités administratives et réglementaires pour s'installer. Aujourd'hui, en Belgique, vous voulez vous installer, vous mettez deux fois moins de temps que dans les Hauts-de-France. Ce n'est pas une question de météo. C'est tout simplement que nos procédures sont très complexes et trop complexes. Et sans créer une principauté des Hauts-de-France, j'aimerais que ce soit le conseil régional qui a la compétence économique qui puisse tout piloter. J'aurai le contrôle de l'égalité. Mais en attendant, je suis sûr qu'on peut gagner du temps parce que le temps que vous gagnez pour vous installer, vous signez avec les clients, vous servez les clients et vous m'avez recruté les emplois dont on a besoin dans la région. Je ne demande pas un euro. Je demande juste à avoir la main, notamment sur ces formalités. Et on sait bien aussi que pour construire en hauteur en France, c'est compliqué, qu'on a le droit de travailler la nuit dans l'industrie la plus lourde qui soit, mais dans le domaine de la logistique, c'est encore compliqué. Ça fait partie des sujets sur lesquels je ne demande pas de pognon, mais je demande juste à leur faire gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, et le temps, c'est du boulot en plus.
Vous avez le plus gros logisticien au monde. Le public est avec Amazon. Parce que finalement, c'est de la logistique, Amazon, en réalité. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, vu le nombre d'emplois que ça crée, quand ça arrive chez vous, d'être Amazon dépendant ? C'est-à-dire, et de perdre un peu la main, justement, sur la stratégie de développement de l'emploi ?
C'est pour ça que je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Oui. Parce que je sais pertinemment ce que seront aussi les évolutions dans certains grands centres, notamment, vous avez parlé des GAFAM et d'Amazon. D'ailleurs, les derniers centres qui sont ouverts, il y a beaucoup moins d'emplois que dans les premiers centres. À Amiens, j'ai beaucoup moins d'emplois qu'il y en a à Lovain-Planck. Et c'est pour ça qu'eux ont leur stratégie mondiale, et avec des questions posées sur la concurrence, ceux qui sont là, je sais que c'est des gens d'ici, et qui sont aussi attachés à l'emploi. Il y aura de l'automatisation, il y aura de la data, il y aura de la robotique. Mais je sais aussi que derrière la robotique, il faut du monde pour créer le robot, pour l'installer, pour le fabriquer, et en assurer la maintenance. Donc c'est aussi pour ça que je veille à ne surtout pas mettre tous mes œufs dans le même panier.
François-Michel Lambert, on parlait des villes, Xavier Bertrand disait bon, les mégalopoles ne veulent pas de toute façon des camions, mais il y a peut-être, y compris d'un point de vue environnemental, un travail de conviction à faire, c'est-à-dire que ça pollue moins finalement peut-être un gros hub logistique au milieu d'une ville, plutôt que de faire venir des tonnes de camions pour livrer les gens qui commandent sur le e-commerce.
Oh ben, parfois je suis provocant, je dis je préfère un bon camion diesel très bien rempli, qu'une multitude de camions peut-être aux dernières normes, mal remplis, oui. Parce que la question n'est pas que la motorisation, la question est l'efficience. Et j'ai lu dans un article récent de Supply Chain Magazine les trois T, efficacité, agilité, sécurité. Je pense que c'est le sens dans lequel la logistique doit aller, ne pas s'éloigner de ces trois fondamentaux, comment être plus efficace, comment être agile par rapport à différentes exigences, des exigences sociétales, mais aussi des imprévus du quotidien, et évidemment garantir que ce qui circule ne sera pas détérioré, voire pire, détourné. Donc, si nous restons sur ces trois items, eh bien, nous pourrons aller dans une logistique qui répond réellement aux enjeux des citoyens. Si nous nous éloignons et que nous stigmatisons, eh bien, nous ne répondrons pas à ce qui est nécessaire de mettre en œuvre. Et donc, la question, on revient toujours, comment on fait en sorte que les élus locaux ne s'affolent pas de l'arrivée d'un acteur logistique avec un hub dans son centre, dans son centre-ville, un petit espace de dispersion, un CDU et autres acronymes de ce type, et au contraire, qu'il réorganise son système de urbain en fonction, qu'il le réorganise dans l'espace pour donner l'opportunité de travailler, mais aussi dans le temps, par exemple en horaire décalé. Et là, nous arriverons à tout à la fois avoir des réponses aux exigences d'aujourd'hui. Je rappelle que la France gagne 1 million d'habitants tous les quinquennats. Donc, et les 3/4, les 4/5 de ces habitants viennent en milieu
en
urbain.
Ville, bien sûr.
Et qu'ils ne viennent pas, et ils ne vivent pas d'eau fraîche et d'amour. Oui. Donc il faut bien apporter des réponses. Donc l'imaginaire d'un monde ancien, pour ceux qui ont mon âge, n'existe plus. Par contre, la création du monde nouveau dans l'efficience de la réponse, si les élus comprennent ce que c'est que l'apport de la logistique dans leur écosystème, dans leur système urbain.
Vous parliez tout à l'heure, Xavier Bertrand, du canal Seine-Nord, évidemment. Il y a des nouvelles voies à ouvrir aussi en termes de logistique, notamment dans le Nord. Il y a les propulsions à hydrogène aussi pour un certain nombre de gros transports. Tout ça,
gros transports, l'hydrogène, mais aussi pour, par exemple, les chariots élévateurs à l'intérieur des plateformes. On essaye de prendre ce virage de l'hydrogène parce que je suis persuadé que c'est la bonne solution. On est aussi... Parce que je pense qu'à court et moyen terme, on a le GNV, notamment pour le véhicule, pour les camions, mais je crois beaucoup, moi, à l'hydrogène à moyen et long terme, camions, bien sûr, mais aussi à l'intérieur. Je n'ai pas appris ça tout seul, c'est un certain nombre de chefs d'entreprise dans ce domaine-là qui m'ont expliqué qu'il fallait aller dans cette direction.
Il y a des investissements lourds à faire pour ça, malgré tout. Là, on a un travail main dans la main entre les autorités locales, la politique locale et puis les industriels.
C'est l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Parfois, les élus, à quoi ils servent? Déjà, à ne pas augmenter la fiscalité, déjà. Et d'autre part, à créer cet écosystème, la formation, l'emploi, mais aussi... sur l'avenir, et notamment nous on a mis en place toute une stratégie troisième révolution industrielle pour aller sur les nouveaux modes énergétiques. C'est là-dessus, je pense, qu'on est attendu et qu'on a un rôle à jouer, pas à la place mais vraiment à côté, parce que ce que l'on met sur la table, c'est ce qui fait, excusez-moi de le dire, que peut-être qu'on choisira ma région parce que c'est une région qui met des moyens sur la table pour qu'on s'y installe.
Et alors, bon, vous connaissez évidemment bien le droit social, par définition. Vous parliez tout à l'heure du fait de pouvoir éventuellement travailler en 3-8 sur ce genre d'activité. C'est compliqué de faire bouger le droit social sur ce genre de choses, non?
Non, c'est pas compliqué. C'est juste à un moment donné de regarder les réalités. Je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, vous êtes dans l'industrie lourde, on peut bosser la nuit. Mais là, si ce n'est pas dans des conditions très particulières, à des moments très précis, on n'a pas le droit dans le domaine de la logistique. Oui. Et vous savez, dites si je me trompe, mais beaucoup de salariés seraient prêts à le faire, pas toutes les soirs, bien sûr, de toute façon, il n'y a personne qui est posté toute sa vie, toute l'année, mais c'est tout simplement parce qu'ils touchent plus. Et donc, si on demandait leur avis aux salariés, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais là, il faut aussi entendre le message du terrain. Est-ce qu'on pourrait juste faire la lumière dans la salle un court instant? Parce que je pensais à un truc à l'instant.
Eh bien, écoutez,
est-ce que c'est possible?
Oui, voilà.
Qui est-ce qui, ici, a déjà invité, par exemple, ses parlementaires à visiter son entreprise? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ça en fait pas tant que ça. Ça en fait pas tant que ça. Je vais vous dire pourquoi. Quand je disais qu'il y a beaucoup d'élus locaux et autres qui ne connaissent pas bien votre secteur, on a à peu près chaque année, ça ne vaut pas pour lui, chaque année, il y a la tentation, soit de parlementaires, soit du gouvernement, de taxer les entrepôts logistiques. Et cette année encore, alors bon, moi je l'assume totalement, moi je suis un lobbyiste de l'emploi, donc quand on me demande d'intervenir, je n'ai pas l'oreille particulièrement du ministre des Comptes, mais ça permet quand même de faire passer un certain nombre de messages, parce qu'on serait concerné. Même l'idée saugrenue de dire, allez, 1 euro du mètre carré, tout ça, ils ont essayé de me faire le coup pour financer le canal Seine-Nord Europe. Mais seulement, comment vous voulez développer la logistique chez nous, si on se met à taxer? Et donc, chaque année c'est refusé, mais si vous faisiez ce travail de lobbying préventif en faveur de l'emploi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'élus qui réfléchiraient à deux fois avant d'avoir l'idée saugrenue de taxer. Si on peut éviter de se tirer une balle dans le pied en France, c'est plutôt malin.
Oui. Alors, est-ce qu'on taxe Amazon? Les GAFA, on
Alors,
les taxe, ça, pour le
moi, coup moi, je suis plutôt anti-GAFA, c'est pas nouveau. Le sujet d'Amazon, c'est qu'ils payent leur taxe foncière. Ils payent notamment la taxe sur les salaires. Ils ont la TVA sur les échanges. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'ils font des données? À qui ils les revendent? Et entre parenthèses, la revente de données, si ça vous la taxiez, Alors là, il y a du pognon à se faire, beaucoup plus que les 400 millions d'euros aujourd'hui, qui honnêtement, les 400 millions d'euros, c'est une blague par rapport à ce qu'on pourrait récupérer.
Ouais. François-Michel Lambert, vous êtes pour ce genre de taxation, en tout cas ciblée, et pas seulement, et pas surtout.
Attendez,
pas...
Pardon, j'ai oublié de vous dire, si Amazon et les GAFA payent autant d'impôts en moyenne que les gens qui sont là, moi, j'ai pas de problème.
C'est ça, oui, mais c'est bien le problème, c'est bien le souci.
C'est aujourd'hui le problème.
Parce qu'aujourd'hui, c'est des emplois aussi.
Oui, mais je ne vais peut-être pas aller sur Amazon paye ou paye pas par rapport à d'autres. Je conviens que ça doit être... j'en conviens que s'il y a une distorsion, ce n'est jamais agréable, voire ça peut être perçu comme une injustice. Mais par contre, sur la question des datas, encore une fois, c'est un élément qui n'est pas intégré dans les politiques publiques. Alors on en parle un petit peu, surtout sur les datas hyper personnelles, comment on va protéger votre photo de vacances. Mais c'est normal, je participe et je fais en sorte qu'on protège vos photos de vacances. Mais ce qui est majeur, c'est les datas qui servent à piloter un système. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des datas qui arriveraient même à piloter le système France. Donc là, la première chose, c'est comment on regarde et on regagne la souveraineté des datas de ces entreprises. C'est un enjeu majeur, sur lequel je n'ai pas encore vu, malgré mes alertes il y a plusieurs années, d'avancées notables de la part du gouvernement. Mais l'élément suivant, c'est comme le dit Xavier, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi un travail peut-être fiscal à avoir sur le traitement et l'usage de ces datas, qui n'appartiennent pas forcément à l'entreprise, qui les reprend à d'autres. Aujourd'hui, nous sommes au carrefour d'une transformation en profondeur de notre modèle de société. Nous sommes dans une société de flux avec des gens qui ne savent pas ce que c'est que piloter des flux. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'économie circulaire, c'est l'économie de flux. Oui. Tout le monde veut y aller. Tout le monde dit qu'il faut mieux maîtriser nos ressources, mieux les redistribuer, mieux les capter. La question de la logistique, on voit bien que vous n'avez pas encore pensé le livre, qu'il est déjà livré devant votre porte. Donc, c'est bien une question de flux et de captation de données. Mais il y a un impensé sur les flux, ils ne se génèrent pas comme ça. Et je reviens sur ma définition, pardon d'insister. Mais si on reste sur une définition assez basique, la logistique, c'est le pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'information. Celui qui détient les flux d'information, eh bien, c'est lui qui maîtrise les flux financiers et qui maîtrise les flux physiques. Donc nous devons, nous, politiques, faire en sorte que ça n'échappe pas et que ce soit bien traité et derrière, faire en sorte que la France remonte dans ce classement mondial.
Un mot tous les deux, et du Brexit et des élections européennes avant qu'on se quitte. Le Brexit, Xavier Bertrand, moi je me souviens des conversations qu'on a pu avoir sur l'antenne d'RTL, c'est 27 km, ce fameux 27 km de bouchon que vous nous annonciez. On en est là, c'est-à-dire qu'à hurler sur le risque où on a quand même un peu avancé depuis.
Non, on a avancé sur les équipements, nous, que ce soit le tunnel à Sangatte, que ce soit le port de Calais. Boulogne, c'est davantage la pêche. Et Dunkerque, nous avons créé les infrastructures et on a essayé de digitaliser au maximum les process pour les formalités. J'ai deux sujets. Un à court terme, c'est la grève du zèle des douaniers. Aucun des contrôles qui est pratiqué aujourd'hui par les douaniers n'est aujourd'hui utile et légitime. Et dans leur bras de fer avec le gouvernement, ceux qui sont pénalisés, ce sont les transporteurs, c'est la supply chain. Mais ça, c'est toujours pareil. Le bras de fer, on se moque de ceux qui font vivre l'économie, qui sont les transporteurs, même si aujourd'hui ça va un petit peu mieux, on essaie de regarder tous les jours et j'aimerais bien que ça cesse. L'autre sujet, c'est que nous, on a mis en place les structures, mais c'est du côté britannique le problème. On a une classe politique britannique qui ne sait plus où elle habite et du coup qui ne sait pas occuper les entrepreneurs. Et beaucoup d'entrepreneurs britanniques sont venus à deux grandes journées d'information qu'on a organisées à Lille. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait venir, nous, directeur général des douanes français et la directrice générale des douanes anglaises, Karen Wheeler, pour leur donner des infos. Ils sont, sans jeu de mots, dans un brouillard pas possible. Et si on avait un tout petit peu de délai en plus, c'est plutôt pour que de leur côté, ce soit plus fluide, parce que si c'est le bazar en Grande-Bretagne, ça peut pas être hyper fluide chez nous. Les formalités chez nous seront allégées, notamment pour le dédouanement et autres. Et la seule chose que je demande au gouvernement et à Bruxelles est pas trop de juridisme et un vrai pragmatisme. Je m'explique. Tant qu'ils ne changent pas leurs normes pourquoi on va mettre en place des contrôles, notamment sanitaires et phytosanitaires, différents. Tant qu'ils ne changent pas leur façon de produire le Stilton, qu'est-ce qu'on a besoin de contrôler ce qui n'était pas aujourd'hui ? Et notre fromage, pardonnez-moi, de Boulogne, pourquoi on change les règles ? Et si je me bats pour garder cette fluidité, ce n'est pas seulement pour les Hauts-de-France. Parce que si demain c'est la panade, c'est aussi des transporteurs de l'ensemble de la France et de l'ensemble de l'Europe qui seront pénalisés. Je ne plaide pas pour ma paroisse Hauts-de-France. Je dis tout simplement que si on fait preuve de pragmatisme et si pour une fois les Français ne sont pas plus royalistes que le roi en termes de contrôle, ça se passera le mieux possible parce que derrière, je le dis aussi, hein, même les usines BMW en Allemagne, les pièces qui viennent d'Angleterre qui étaient produites au départ pour la Mini qui est devenue maintenant sous giron allemand, ça pénalisera tout le monde. Donc pour une fois, là-haut, pas de juridisme et du pragmatisme, ça va nous changer.
Hein. On va avoir dans quelques jours, je vous annonce déjà sur RTL, un focus sur les gagnants du Brexit. Et on va annoncer qu'il y a 5 000 postes dans la banque qui vont être créés, 15 000 postes indirects rien que sur Paris, et évidemment les lycées internationaux qui sont en train de pousser un peu partout pour accueillir ces Anglais. Voilà, à Lille. Il y a quand même des opportunités aussi. C'est-à-dire que là, pour la région Hauts-de-France, il y a quand même peut-être
oui, il y a des opportunités, mais déjà, je veux franchir ce cap. Ça fait 3 ans qu'on est mobilisés avec eux en leur disant, si vous voulez être en Europe, l'Europe la plus proche, ce sont les Hauts-de-France. Ça, c'est vrai. La géographie, elle ne changera pas. Il n'y aura que 27 km, là, pas de bouchons, mais entre Douvres et Calais. Nous, on est positionnés, et ce qu'on essaye de mettre en place dans la région, c'est une zone franche d'accueil pour les nouveaux investissements anglais et français, européens, parce qu'il faut dire européens, pour tout ce qui viendrait en plus, notamment à la sortie du tunnel et du port. Et j'ai dit au président de la République qui a donné un accord de principe, moi, je suis prêt à ne pas avoir d'impôts qui rentrent du moment que j'ai des emplois. Et je pense d'ailleurs que ce que j'essaye de faire là pour le post-Brexit, qu'il faudrait faire en France, il faudrait qu'on arrête notre sale habitude des impôts et qu'on ait maintenant vraiment l'obsession des emplois. Et encore une fois, ce n'est pas pour mes beaux yeux qu'on viendra, c'est parce que c'est on trouvera l'emploi, il y a du business derrière et ce sont eux qui créeront les emplois, encore une fois.
D'ailleurs, région de France, on le saura demain avec France Stratégie, qui est dans les meilleures régions de France pour l'accueil des industriels.
Avec embargo jusqu'à demain 13h, donc je ne dois rien dire.
D'accord. Bon, bah, je ne vous ai rien dit. Mais vous écouterez demain l'antenne, on en parle. François-Michel Lambert, pardon. Par rapport à ces problématiques-là, justement, par rapport à la politique et le Brexit, et les européennes qui, effectivement, se pointent à l'horizon, il y a un enjeu pour la logistique à passer ces deux caps-là.
Le Brexit, ça a été très bien expliqué par Xavier, même si je suis député de la région Sud. Par contre, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà lu, de lire le livre « La logistique, une affaire d'État » avec un point d'interrogation, ou mieux encore, de regarder l'émission sur Supply Chain Village dans laquelle j'interview Laurent Livolzi, et ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Là, on est sans trop centré sur la France. On regarde un tout petit peu le Brexit, mais les Chinois, les pays émergents, comme on peut le voir, le Maroc, les Américains, évidemment, tous sont en train de structurer des systèmes de logistique planétaire. Alors, évidemment, les Chinois sont les plus forts avec leur route de la soie et leur ceinture qui est en train de structurer au niveau planétaire les flux. Et nous, en Europe, nous sommes encore parcellaires. À un moment donné, il y a une nécessité, au-delà du Brexit, qu'au niveau européen, il y ait une stratégie profonde de faire en sorte que ce ne soit pas la seule Allemagne ou les seuls Pays-Bas qui soient efficients en termes de logistique, parce que dans le temps, ils ne le tiendront pas, et Xavier vient de le démontrer, ne serait-ce que par BMW et la Mini, c'est l'Europe qui doit être une puissance logistique. Je rappelle que nous pesons 25% du PIB mondial, mais en termes de système organisationnel, nous sommes extrêmement loin de ce qui est en train de se mettre en place par les grandes puissances comme la Chine ou comme les États-Unis.
Par chez vous, il y a le fameux Lyon-Turin. On parlait de se tirer une balle dans le pied parfois entre Européens. C'est quand même aussi ça la démonstration. C'est que parfois, la politique européenne que vous décrivez, elle a du mal à se mettre en place parce qu'elle est centrée uniquement pays par pays. C'est la démonstration du Lyon-Turin quand même.
Alors, il y a eu des tentatives avec le RTET au niveau européen, mais ce sont des infrastructures qui ne sont pas suivies d'organisation du système à l'échelle continentale. On laisse chaque pays aller dans son propre système. Et le président chinois qui est venu la semaine dernière a signé avec l'Italie une stratégie propre, italienne, les Grecs aussi sont associés, tournée vers la Chine quand l'Allemagne Polo, est dans son « made in Germany » dans son sens, et la France est perdue, les États-Unis, le Royaume-Uni sort, les Pays-Bas continuent à faire leur entrepôt. Bon, voilà, à un moment donné, où on est peut-être grand, mais on est petit. Ouais. On est petit face à la Chine et face à l'Inde, qui va se réveiller très probablement, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Eh bien, l'Europe, je le redis, 25% du PIB, elle n'a pas du tout de pensée organisationnelle et de stratégie de long terme sur quelle est sa place, quel est le système logistique qu'elle veut mettre en place. Et ça, c'est le grand enjeu que nous avons post-élection européenne.
Merci beaucoup à tous les deux, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Je vous rends à vos responsabilités et aussi à la suite de la soirée. Et François-Michel Lambert, député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci vraiment tous les deux d'être venus ce soir.